Aujourd'hui, en ce 22 octobre, nous allons célébrer la fête de Sainte-Madeleine, qui se célèbre en fait le 22 juillet. C'est la grande amie de Jésus. Et Sainte-Marie-Madeleine, c'est vraiment une sainte passionnante quand on ne fait pas trop d'exégèse et puis qu'on lit les évangiles et qu'on cherche à la trouver simplement, sans trop se compliquer la vie. Et dans un petit ouvrage qui est paru tout récemment, Sainte-Marie-Madeleine, un chemin de lumière, une petite brochure qui se vend quelques dollars à peine, j'ai pu trouver ce que je cherchais ailleurs dans bien d'autres livres. Cet ouvrage est dû à Marie-Élisabeth Babot et c'est aux éditions du Livre ouvert. C'est une charmante petite collection, cette collection publiée par les éditions du Livre ouvert. On y trouve toutes sortes de choses. Il y en a des livres là-dedans, des petits livres qui se vendent même pas 10 dollars, je crois. Et ce sont des petits bouquins ravissants, intelligents, bien faits, comme on les fait de plus en plus dans l'Église aujourd'hui. Or, on sait que les fautes de Marie-Madeleine, du moins, c'est ce qu'on lui attribue, les fautes nombreuses. Il est dit dans Saint-Luc, cette parole de Jésus, ses fautes, ses nombreuses fautes, lui sont remises parce qu'elle a beaucoup aimé. Hein? Et sous les traits de Sainte-Marie-Madeleine, on peut dire que l'Église rapproche puis entremet plusieurs portraits de femmes. Hein? Faut pas trop s'en faire à se dire, « Oh, c'est pas vraiment Marie-Madeleine, cette Marie-là dont il est question. » Soyons simples. Et allons avec l'Église qui entremêle les portraits de femmes dans les évangiles. Il s'agit toujours de toute façon d'une figure féminine qui est attirée par Jésus. Elle est attirée. Elle est attirée par la parole de Jésus. Et puis au cours des siècles, eh bien, les chrétiens l'ont prise comme modèle de femme, une femme aimante, une femme pleine d'amour, mais qui est pardonnée. Puis une femme qui est contemplative. Et l'un des portraits, c'est celui d'une femme dont on dit Marie, appelée la Magdaléenne, délivrée par Jésus de 7 démons. Et qui fait partie d'un groupe de femmes qui l'assistent de leur bien. C'est ce qu'on raconte. Un autre portrait pourrait être celui de la femme amoureuse. Hein, vous vous souvenez de cette belle scène. C'est beau dans l'Évangile, ça. Mais qui est aussi une pécheresse. Et qui s'introduit dans un banquet offert à Jésus, qui répand sur ses pieds ou sur sa tête un vase de parfum, en les arrosant de ses larmes et en les essuyant avec ses cheveux. Il y a deux évangélistes qui disent que c'est sur sa tête, un autre dit que c'est sur ses pieds, ça n'a aucune importance. Si ce n'est que sur ses pieds, c'est plus humble, et sur sa tête, ce serait comme une confirmation qu'il est le Messie. Il reçoit l'onction. Enfin, il y a un autre portrait de Marie-Madeleine. Ce serait celui de la femme, nommée Marie, qui offre avec sa sœur Marthe un beau séjour d'hospitalité à Jésus dans leur maison de Béthanie. C'est tout près de Jérusalem. Et à Béthanie, bien, elle vivait là avec leur frère Lazare, hein, le fameux Lazare, le grand ami de Jésus aussi. Et assise aux pieds de Jésus, elle écoute sa parole, c'est la contemplative. Il y a aussi la veille de sa mort, hein, elle renverse un vase de parfum précieux sur ses pieds, selon les évangélistes, comme je viens de vous dire, c'est Jean, ça. Ou sur sa tête, c'est selon Matthieu et Marc. On la retrouve aussi parmi les femmes qui regardent à distance le Christ Jésus, son Seigneur crucifié. Ou bien, comme on dit aussi dans un autre texte évangile, elle est près de la croix. Et venue au tombeau, vous savez, au matin de Pâques, là, c'est elle, cette femme, qui est la première témoin du ressuscité. C'est une femme, pas un homme, une femme. Elle reçoit de lui la mission d'annoncer aux disciples qu'il monte vers son Père, comme dit le texte. Je reviendrai là-dessus. Dans les tableaux, les images, les fresques, etc., où on la représente, on la voit comme à la Sainte-Baume. Vous savez, la Sainte-Baume, c'est cet endroit où elle se serait retirée. où elle serait morte d'ailleurs. C'est une chaîne de montagne, la Sainte-Baume, aux Bouches du Rhône, disons, près de Marseille, quoi. Et dans le sud de la France. Alors on la voit vêtue de ses seuls cheveux. Dans certaines représentations, vous avez dû voir ça, hein. On la voit aussi dans la scène de la résurrection de Lazare, elle est prosternée aux pieds du Seigneur Jésus. Dans celle de la crucifixion, elle est tantôt les cheveux dénoués, puis elle embrasse les pieds de Jésus crucifié. Tantôt, elle est voilée avec un groupe de femmes. Ou bien, elle soutient la Mère de Dieu, Marie. Elle est souvent représentée aussi sous les traits d'une des saintes femmes qui apporte du parfum au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Puis on la voit aussi au matin de Pâques, hein, elle est témoin du Christ ressuscité, là on la voit avec le jardinier qui est Jésus. Je vous ai parlé des sept démons, là. Qu'est-ce que ça signifie ça, les sept démons chassés par Jésus de Marie appelée la Magdaléenne? On peut les rapprocher de ce qui, dans la tradition chrétienne, constitue ce qu'on a appelé les sept péchés capitaux, quoi. Vous vous souvenez de ça, les sept péchés capitaux? On apprenait ça quand on était jeune. Hein? Jésus a tout pouvoir sur ces esprits. Ces esprits qui égarent les êtres humains, qui trompent le cœur humain et qui l'empêchent d'aller vers Dieu. Ce pouvoir de Jésus sur les esprits mauvais est aussi donné par Jésus à ses apôtres. Oui, les évêques ont ce pouvoir, qui sont les successeurs des apôtres. Et c'est l'un des signes qui accompagne ceux qui croient en son nom, croire au nom de Jésus. Le nombre 7, qu'est-ce que ça veut dire en général dans la Bible? Ça symbolise la totalité. Tu pardonneras 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 70 fois 7 fois. Ça veut dire toujours, il faut toujours pardonner, hein? C'est ce que dit Jésus. Alors, le nombre 7 symbolise donc la totalité, puis Madeleine était alors complètement séparée de Dieu. Elle était possédée. Elle était en révolte avec la loi. Dont le premier commandement, c'est quoi? C'est celui de l'amour, hein? Puis elle était alors plongée dans le monde. Oui, plongée dans le monde. C'est pas drôle, c'est plongée dans le monde, ça. Ce monde dont l'Écriture, dont la Bible dit que Satan en est le prince. On voit ça à la télévision, dans toutes ces much music et ces histoires. On se demande, ces pauvres enfants, ces pauvres jeunes, probablement qu'il y en a beaucoup qui sont pas plus méchants que rien, mais qui dansent et qui sautent comme s'ils étaient en enfer. Il y a quelque chose d'assez pénible dans ces éclairages, cette musique, ce beat, comme on dit. On a l'impression que Satan est le prince et les fait danser. Ils ont des sourires, mais quelle sorte de sourire. Moi, ça me fait tellement de chagrin, parce que je sais que parmi eux, c'est plein de gens merveilleux, extraordinaires, que si on pouvait donc les rejoindre et les atteindre, leur toucher le cœur, et leur montrer que ce monde-là n'est pas le vrai monde. Et Madeleine se trouve donc en présence du Christ, totalement libéré de ce monde, lui. Il est loin de l'Esprit-Saint, dont il répand le parfum pour ceux à qui cela est donné, ces gens-là qui avaient la grâce d'être sensibles à ce parfum qui venait de Jésus, cet Esprit Saint, et qui s'étaient capables de l'accueillir, et là, ils trouvaient le bonheur, alors elle voit ça. Et c'est comme le contraste entre une haute montagne rayonnante de lumière, puis un abîme de ténèbres où elle se trouve. Alors Madeleine a eu une vision aveuglante de son néant. Son néant, oui, elle l'a vu. Elle a vu aussi l'impossibilité de continuer à vivre comme ça, en face de quelqu'un qui est l'absolue pureté. Cette révolte qu'elle avait contre la loi d'amour, s'évanouit petit à petit devant celui qui est entièrement conforme à la loi d'amour et dont la seule volonté est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Elle n'a plus aucun pouvoir sur elle-même, finalement. Il faut qu'elle se livre à l'amour. Et Jésus dit d'elle, elle a beaucoup aimé. Et la fuite des esprits mauvais sort de son être. Elle se transforme, c'est la conséquence de la conversion de Marie-Madeleine. Hein? L'orgueil fait place à l'humilité. À l'attachement au monde succède l'attachement à celui qui en est libéré, qui est Jésus. Et Sainte Madeleine saisit les pieds de Jésus et ses larmes s'unissent à la source de la grâce. Et là, la reconnaissance du péché est accompagnée des larmes du repentir qui ouvrent les sources de la conversion puis de l'amour. Évidemment que le cœur compatissant de Dieu, hein, touché au plus profond de lui-même par celui ou celle qui revient à lui, donne en modèle la béatitude des larmes, c'est le don des larmes. Dieu lui-même vient à notre secours par ce don des larmes. Peut-être ça vous est déjà arrivé, les larmes coulent. Vous ne voulez pas, vous voudriez arrêter et ça coule. Ça coule pas pendant 2 minutes, ça coule pas pendant 10 minutes, ça peut couler pendant 1/2 heure. C'est très étrange. Ce don des larmes qui adoucit, qui ouvre les cœurs les plus fermés. Lavé par les larmes, le cœur s'ouvre intérieurement. C'est une nouvelle naissance. C'est semblable à la naissance qui nous est arrivée lorsque nous avons reçu l'eau du baptême. Ce baptême qui renouvelle la création. Et c'est aussi l'attente d'une autre onction, celle de l'Esprit qui vient à la confirmation. Il est dit au psaume 23, « D'une onction, tu me parfumes la tête ». Et ma coupe déborde, hein, c'est ce qu'elle a fait avec Jésus. Marie, sœur de Marthe et de Lazare, a été témoin de la résurrection de son frère. Vous savez que Lazare a été ressuscité par Jésus. Mais oui, la parole qui est sortie de la bouche de Jésus a fait revenir Lazare à la vie, il est sorti de son tombeau. Et lors du repas à Béthanie, donné en son honneur chez Simon le lépreux, Marie-Madeleine, 6 jours avant la Passion, verse sur la tête du Seigneur le contenu d'un flacon d'albâtre contenant un nard pur de grand prix, dit-on. Et dans la première alliance, on sait que l'onction était réservée aux prêtres puis aux rois. Alors on peut dire que par son geste, là, Marie de Béthanie reconnaît donc en Jésus qu'il est Messie. Messie, ça veut dire Christ. Ça signifie oint. Quelqu'un qui a été oint de cette huile, de ce nard. Et ça veut dire qu'il est roi. Et dès le début de son ministère, Jésus, qui reçoit comme ça le passage du prophète Isaïe, à lire, il avait évoqué cette onction, hein, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », avait-il lu, « parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Et aujourd'hui encore, le nouveau prêtre, les jours d'ordination de prêtre, là, ben il est oint lui aussi le jour de son ordination, puis le baptisé lors de son baptême aussi. Vous pourrez voir au grand séminaire ce soir à 8h un nouveau prêtre qui a été ordonné il y a quelques mois, Jean-Pierre Couturier, lors d'une grande réunion pour les vocations sacerdotales au grand séminaire à 8h ce soir. C'est sur la rue Sherbrooke, hein, 2065 Sherbrooke, près de Guy. Et cette onction sur la tête correspond au plus grand désir du Christ. Ce désir dont il avait attendu la réalisation de Simon le pharisien, mais que seule une femme, oui, une femme, Marie de Béthanie, a su deviner, oui. Et de façon prophétique, elle sacre Jésus, roi d'Israël, on pourrait dire. C'est une femme qui le sacre. Elle reconnaît dans sa royauté une bonne nouvelle pour les pauvres. Et le parfum, là, dont l'odeur se répand dans toute la maison, dit l'Évangile, préfigure la bonne nouvelle qui se répand, qui est destinée à se répandre dans le monde entier. Et le reproche de gaspillage, vous vous souvenez, fait par Judas, qui est motivé bien plus par l'amour de l'argent qu'autre chose, et non pas par l'amour des pauvres, ça paraît bien inapproprié. À l'importance de ce qui se passe au fond du cœur de Jésus, avec le regard du cœur. Mais Marie-Madeleine voit en Jésus le pauvre, l'innocent, bientôt condamné à mort, prêt à aller de la terre au ciel, le serviteur souffrant. Alors elle lui offre ce qu'elle a de plus précieux, le parfum gardé jusqu'à cette heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs, comme il est dit dans Saint Matthieu, chapitre 22. Et Jésus non seulement accueille ce geste de Marie-Madeleine, mais il le confirme puis lui dit d'avance, « Elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. » Inspirée par l'amour, donc, Marie-Madeleine a su deviner l'angoisse de Jésus. Jésus s'en va vers sa passion. Son grand cœur, son grand amour a su comprendre ce dont il avait besoin à ce moment-là. Et sachant qu'il ne lui restait que quelques heures à vivre, il voulait achever de tout livrer et elle a tout accompli pour que dans son humanité, le Fils de Dieu soit entouré d'affection humaine, de réconfort, de reconnaissance et d'amour gratuit, oui, gratuit. Alors, loin de la tête aux pieds, on pourrait dire embaumé par Marie-Madeleine, Jésus va vers la vie. Marie-Madeleine, elle est témoin de la passion du Seigneur. Dans les évangiles synoptiques, le Matthieu, Marc et Luc, elle fait partie du groupe des femmes qui regardent à distance. Il s'agit des femmes, comme dit le texte des évangiles, qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée et le servaient, ou qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Dans Saint Jean, elle se tient près de la croix, avec sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Clophas. Près de Jésus, entourée de deux malfaiteurs crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche, comme on sait, se tient aussi Saint Jean, tout jeune, oh, une vingtaine d'années, quoi, le disciple bien-aimé. L'iconographie représente souvent Marie-Madeleine à genoux au pied de la croix, les cheveux dénoués, embrassant les pieds de Jésus, comme je vous ai dit. La liturgie reprend le vendredi saint ce geste. Vous savez, ça nous fait faire d'embrasser la croix du Christ. J'aime pas l'expression, on dit « adorons-le », adorons la croix, l'adoration de la croix, c'est la vénération de la croix, mais on adore Jésus. On nous invite tous, n'est-ce pas, à vénérer cette croix en l'embrassant. Je trouve ça très beau, d'ailleurs. Et Marie-Madeleine a donc suivi Jésus jusqu'au bout, envers et contre tout. Et jusqu'à la fin, par sa présence, la silencieuse, elle lui a manifesté son amour, son espérance, en compatissant ses souffrances, en entendant ses dernières paroles, qui sont si belles, où il pardonne. Père, pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils font. C'est une des plus belles choses dans toute l'histoire de l'humanité, ça. Puis, elle voit, puis peut-être qu'elle recueille aussi le sang et l'eau qui jaillissent de son côté transpercé quand le centurion lui perce le cœur, alors qu'il est mort. Marie, mère de Jésus, qui n'a jamais été atteinte par le péché, puis Marie-Madeleine, relevée puis pardonnée par Jésus de tous ses péchés, et renaissant par lui une vie nouvelle, transfigurée, mais ces deux Maries, Marie et Marie-Madeleine, apparaissent toutes les deux là comme une icône de la miséricorde. De la plus grande sainteté au plus grand péché, Dieu réunit tout dans son cœur et dans son pardon. C'est très beau quand on les voit au pied de la croix toutes les deux. Ah, c'est la synthèse. Et la dernière fois qu'on aperçoit Marie-Madeleine dans les évangiles, c'est lors de sa présence au tombeau de Jésus au matin de la résurrection. Seule d'après saint Jean, ou avec l'autre Marie d'après saint Matthieu. Et pourquoi les femmes sont-elles les premières à aller au tombeau de grand matin, le premier jour de la semaine? Mais elles viennent embaumer le corps de Jésus, c'est selon saint Marc et saint Luc. Elles ignorent donc que, selon saint Jean, Joseph d'Arimathie et Nicodème l'ont fait rapidement, trop rapidement peut-être le soir du vendredi, juste avant le sabbat, juste avant qu'il faut que tout s'arrête, toute action, pour vénérer Dieu. Si les Juifs, on vénère Dieu, hein, le jour du sabbat. Nous, on va acheter, on ouvre les magasins, on fait n'importe quoi. C'est plutôt triste. Il y a certainement de leur part le désir de revoir Jésus puis de lui donner des soins mortuaires, quoi. Puis d'autre part, si les premiers venus à l'aube du premier jour avaient été des hommes, pensez-y, on n'aurait pas cru ce qu'ils auraient rapporté de la résurrection. Ça aurait été suspect. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu rouler la pierre. Ils étaient assez forts, eux autres, mais pas des femmes. Or, la pierre était roulée. C'était pas elle qui l'avait fait. Ils n'auraient pas été capables. La pierre roulée, c'est la pierre ronde, là, qui était à la porte du tombeau, qui servait de porte, quoi. Ça se roulait. Vous savez ça. Ayant suivi Jésus jusqu'au calvaire, Elles avaient accompagné son corps le soir du vendredi jusqu'au sépulcre où elles retournent le matin, dès qu'elles ne sont plus obligées par la loi du sabbat, justement. Et cette fidélité va leur valoir la joie des retrouvailles. Hein? L'apparition de Jésus est précédée de celle d'un ou deux anges, selon les évangélistes. Et Marie-Madeleine est la première à avoir regardé l'intérieur du tombeau vide, qui était gardé par les anges. Et Saint Jean, au chapitre 20, nous rapporte comme elle pleurait, elle se pencha vers le tombeau, et elle voit deux anges en blanc assis où avait été placé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Alors en ce matin de Pâques, comme en celui de Noël, deux groupes se trouvent en présence. Hein? Un groupe surgit du monde de l'invisible, quoi, puis l'autre tout à fait terrestre. Et c'est à Marie-Madeleine que Jésus parle en premier. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? » Femme, vous savez, c'est le mot, hein, le même mot que Jésus avait adressé à sa mère lors des noces de Cana. Jésus ressuscité restaure et renouvelle la première création abîmée par le péché, si on peut dire. Et tout est nouveau. Si quelqu'un est dans le Christ, dit saint Paul, c'est une créature nouvelle. Marie, mère de Dieu, l'est par la grâce, par grâce. Hein, et Marie-Madeleine le redevient par l'action du Christ qui est venu la sauver en la comblant de son amour. Et alors Marie-Madeleine comprend de quel amour elle est aimée. Puis alors elle se retourne, c'est-à-dire qu'elle met son regard dans celui de Jésus. C'est ça, se convertir. Se confesser de faute très grave. Se changer de vie quand on a quitté l'Église pendant un bon bout de temps. C'est se retourner et mettre son regard dans celui de Jésus. Elle le fait. Et elle peut écouter et accueillir sa parole, et elle entend alors prononcer son nom, Marie. Inondée par la lumière de Jésus ressuscité, elle devient ce qu'elle est dans le regard de son Dieu, tel que Dieu la voit. La toute belle du Cantique des Cantiques, c'est elle, oui, Marie, Marie-Madeleine, appelée par son Seigneur du même nom que la Vierge Marie, sa mère. Elle est la vivante de la première création. Ah, tout est grâce. Elle reconnaît en Jésus son maître et elle dit tout doucement, « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Elle le reconnaît comme son maître. Elle dépend entièrement de lui. Toute son âme lui est donnée. Jésus lui dit alors, « Ne me touche pas. » En grec, ça veut dire, « Ne t'attache pas à moi. » C'est ça la vraie traduction, « Ne t'attache pas à moi. » Il l'invite à se détacher de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore remonté vers son Père. Et monter vers son Père, c'est le mouvement de l'ascension déjà commencé, auquel Jésus associe en premier la femme, Marie, avant de l'envoyer vers ses disciples. La fausse voie est une descente vers la mort. Mais la vraie voie, c'est une montée vers la vie, une montée dont l'homme et la femme sont incapables par eux seuls. Ayant fait en elle-même ce passage de la mort à la vie, Marie-Madeleine est choisie. Elle est envoyée par Jésus pour annoncer, c'est fantastique, elle est envoyée pour annoncer aux disciples ce qu'elle a expérimenté. C'est elle qui annonce la résurrection de Jésus. Comme Marie-Madeleine, mais il y a des hommes et des femmes qui font l'expérience, malgré leur fragilité puis leur péché, bien qu'ils reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Puis ils sont appelés par ricochet, on pourrait dire, je dirais même par nécessité du fond de leur péché pardonné, comme par un surgissement du fond de leur âme purifiée. Bien, ils sont appelés à aller au-devant de leurs frères pour les entraîner sur des chemins de vie. Oui, des chemins de vie. En pardonnée puis illuminée par le Christ, Marie-Madeleine entre de plus en plus profondément dans l'expérience du cœur à cœur avec lui, dans la contemplation de celui qui n'en finit pas de la combler. Elle réalise, Marie-Madeleine, le désir du bien-aimé du Cantique des Cantiques. Vous vous souvenez de cette parole, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées. Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est beau. » Marie-Madeleine est vénérée, on le sait, à Éphèse, avec Marie, mère de Jésus, et avec Jean, le disciple bien-aimé. Réfugié, selon la tradition, surtout dans l'Église orthodoxe, l'Église grecque, dans une grotte des collines voisines. Mais Marie-Madeleine est aussi vénérée à la Sainte-Baume, dont je vous ai parlé, là, cette chaîne de montagnes, près de Marseille. C'est très beau, il faut aller voir ça, hein, c'est fantastique. Où elle aurait vécu en ermite pendant de longues années. Selon la légende provençale, on est en Provence, là, elle y aurait été servie 7 fois par jour par des anges, et l'allusion à la prière des moines qui 7 fois par jour se réunissent pour prier les psaumes. Et c'est pourquoi les ermites se sont succédés au cours des siècles, l'ont prise pour modèle et pour gardienne. Comme elle, dans la solitude du cœur à cœur symbolisée par la grotte, là, les ermites se laissent conduire par le Christ pour aller des ténèbres à son admirable lumière, comme on dit. Dans la basilique de Vézelay, les chants que nous on entend au cours de cette émission sont des chants de Vézelay. Dans la basilique de Vézelay, qui est en Bourgogne, en France, et qui est dédiée à Marie-Madeleine, c'est un des grands monuments d'art roman, avec un chœur gothique, d'accord, mais c'est une basilique immense et superbe, grand lieu de pèlerinage à Marie-Madeleine, par toute l'Europe et particulièrement en France, donc, eh bien, le jour du solstice d'été, donc vers le 21 juin, j'ai déjà été là ce jour-là, c'est très beau, là, le soleil pénètre de telle sorte dans la basilique qu'on peut y voir un chemin de lumière fait de taches de soleil qui montent du fond jusqu'à l'autel. Et cela, ça peut évoquer, pourquoi pas, Marie-Madeleine, qui montre le chemin qui mène au Christ, qui est la vraie lumière. Un ermite qui a fui le monde, non, il se retire du monde. Pourtant, il reste encore attaché. Il retrouve le monde en lui-même, alors que profondément, il est saisi par l'amour divin. Vous avez beau vous enfermer dans une grande chartreuse, dans une maison, le monde vous poursuit. Vous avez beau rentrer au Carmel et vous enfermer dans votre cellule, j'imagine, la carmélite est poursuivie par le monde. Il est à la fois, l'ermite, en dehors et au cœur de la foule. Parce que par sa prière d'intercession qui monte sans cesse vers le Seigneur, par l'offrande de sa vie, là, sa simple présence rayonne et attire. Il n'est que l'instrument d'une autre présence. La présence, la grande présence, celle de Dieu. C'était le rôle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nouveau docteur de l'Église. Elle a été cet instrument d'une autre présence qu'elle a aimé. « Je serai l'amour », a-t-elle dit. L'amour, elle aimait Dieu. C'est comme ça pour Marie-Madeleine, retirée à Éphèse ou à la Sainte-Baume, qui rayonne par sa simple présence, puis qui entraîne encore aujourd'hui même ceux qui veulent mener une vie de pénitence et de prière, la solitude intérieure habitée par la présence du Christ, même au cœur d'une ville, dans nos petits appartements, ça peut être celle de cet ermitage qui nous est donné comme par la force des choses. Ça peut être cette présence du Christ qui peut être celle d'une vie cachée. Que de gens mènent de vie cachée. Même au sein d'une grande ville, dans un appartement, comme je vous dis, à Montréal, il y a des centaines de milliers de gens qui vivent seuls. Plusieurs sont des ermites, peut-être sans le savoir. Nous pourrions tous ensemble, nous qui sommes seuls, invoquer Sainte Marie-Madeleine. Dans presque toutes les familles, du moins jusqu'à une époque récente, on a donné à l'une des filles le prénom de Madeleine ou de Marie-Madeleine, et je profite de cette occasion pour dédier cette émission à ma filleule que j'aime beaucoup, Madeleine Widmer, une grande convertie qui s'est convertie il y a 40 ans, une catholique profonde, ardente. C'est qu'il existe une sorte de familiarité avec cette sainte qui a connu la faiblesse humaine et qui a été pardonné par Jésus, et se trouver sous le patronage de Sainte Marie-Madeleine, c'est l'avoir comme gardienne. Son nom a été longtemps lié aux religieuses de nombreuses congrégations qui, dans divers pays, prenaient soin des jeunes filles. Et puis, vous connaissez probablement par le film « Les anges du péché », l'ordre des dominicaines de Béthanie, fondé au siècle dernier par le père Lataste. Le père Lataste, qui a eu comme intuition et comme mission de réunir en un même lieu des femmes qui souhaitaient entrer chez les dominicaines et d'autres qui sortaient de prison puis qui voulaient aussi faire partie de cette congrégation, en se convertissant comme Marie-Madeleine, sans que rien ne distingue les unes des autres cependant, dans le respect absolu de leur passé. Quand on voit une communauté des dominicaines de Béthanie, là, on ne sait pas qui avait fait de la prison, puis qui s'est toujours bien conduit, comme on pourrait dire. D'ailleurs, je vais vous parler du père Lataste, ce saint absolument merveilleux. Mais moi, je l'appelle un saint. Je vais vous en parler le 10 mars prochain. La présence de Sainte Marie-Madeleine reste attestée aussi par son nom qui est attaché à toutes sortes de lieux. Moi, j'ai été baptisé à la paroisse Sainte-Madeleine d'Outremont. On était pauvres, on vivait dans la section pauvre d'Outremont. On pensait pas qu'on venait du côté des riches. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai commencé à travailler à 9 ans. À la pharmacie, à 9 $ par semaine. Il y a des bidonvilles qui s'appellent Madeleine, des favelas, des léproseries, des hôpitaux. Tous des lieux où à la souffrance s'ajoutait l'exclusion du monde. C'est pourquoi elle a sa place, Madeleine, parmi ceux qui souffrent, parmi ceux qui sont tombés par le vice ou la drogue, comme mon pauvre fils dans les abîmes, dont ils ne savent pas comment sortir, parmi ceux qui sont exclus ou ceux qui se croient rejetés, parmi ceux qui n'ont pas peur de se mettre en chemin pour se laisser rejoindre par la miséricorde. Elle est là aussi parmi tous ceux qui acceptent de se remettre debout et de se laisser accompagner pour le faire. Sainte Madeleine entraîne à une vie renouvelée. Chère Sainte Madeleine, le rayonnement de Sainte Marie-Madeleine près de la croix demeure dans notre monde actuel, où elle accompagne encore, comme elle l'a fait en étant près de la croix de Jésus, tous ceux qui sont en train de se préparer à faire leur passage, le grand passage, vers l'au-delà, vers Dieu, vers les bras pleins d'affection de Dieu notre Père. Et aussi ceux qui se tiennent près d'eux, aussi près des mourants, hein, avec ou sans parole, Marie-Madeleine est là. Oui, comme Madeleine, elle leur inspire le geste qui console et soulage, et elle fait en cela comme Marie, mère de Jésus. Il y a là un paradoxe. Le nom de la sainte est associé d'une part à celui qui mène dans la solitude à une vie de pénitence et de cœur à cœur avec son Seigneur. Et d'autre part, au lieu surpeuplé où règne la misère, la saleté, la corruption des mœurs. Oh, Marie-Madeleine, qui avait connu une vie de confort et probablement de luxe, a suivi Jésus, puis avec d'autres femmes, guéries par lui, a été choisie pour se mettre à son service, puis à celui des apôtres, hein, dont les pêcheurs du lac étaient, vous le savez, parmi les plus pauvres, les moins instruits. C'était pas des gens, ils devaient sentir même un peu le poisson des fois. Et étaient méprisés de ceux qui se disaient les purs. Pauvre Marie-Madeleine, elle est tombée au plus bas, elle a été rejetée, considérée comme impure. Elle a été proposée en modèle par le Christ à plusieurs reprises, parce qu'elle l'a beaucoup aimée. Parce qu'elle a beaucoup aimé. Par son amour, par son écoute, elle a su aussi deviner les désirs de Jésus, de son Seigneur. Elle a su y correspondre et choisie par lui comme premier témoin de sa résurrection, je vous l'ai dit tout à l'heure, bien, elle est envoyée vers ses frères et ses sœurs. Et aujourd'hui encore, on peut dire que nous profitons, nous, de son message, qu'elle a été la première à promulguer. Et selon la légende, après la persécution qui a suivi la lapidation de Saint-Étienne, il y avait un groupe de judéo-chrétiens qui a quitté la Palestine sous la conduite de Maximin, l'un des 72 disciples de Jésus. On dit qu'ils se sont embarqués dans un navire, sans voile ni rame, c'est pas drôle, hein? Et ce vaisseau, poussé par le vent d'est, au gré, non pas du hasard, mais de l'Esprit-Saint, dirait-on, est miraculeusement dirigé jusqu'à l'embouchure du Rhône, près de Marseille, à l'emplacement actuel des Saintes-Maries de la Mer, hein? Dans la région de Marseille, quoi. Et Maximin, Marthe, Lazare, Madeleine et quelques autres disciples débarquent. Ils arrivent à Marseille, où Madeleine prêche la bonne nouvelle, raconte-t-on. Puis ils se séparent et Madeleine et Maximin vont à Aix, Aix-en-Provence, dont Maximin devient évêque, tandis que Madeleine se retire dans le massif de la Sainte-Baume. Et au moment de mourir, elle reçoit les derniers sacrements de la main de Maximin qui ensevelit son corps dans la tombe où l'on va déposer son corps par la suite. Et c'est la raison pour laquelle on admettait à Vézelay que le corps de Sainte Madeleine a reposé à Aix avant son transport à Vézelay en 880. Donc, depuis plus de 1000 ans, elle serait ensevelie à Vézelay même, dans cette grande basilique qui lui est dédiée, la basilique de Sainte Marie-Madeleine. En réalité, il semble que le voyage légendaire de Marie-Madeleine s'explique par le transport dans la vallée du Rhône et la région rhénane des reliques de Sainte Madeleine. Dès le 5e siècle, la tombe de Sainte Marie-Madeleine contenait ses reliques. Celle qui contenait ses reliques était située dans une grotte d'Éphèse. Il était normal que la Sainte suive la Vierge Marie puis l'apôtre Jean qui sont allés là et qui passaient pour avoir fui les persécutions de Palestine. On dit qu'ils avaient trouvé refuge dans la région d'Éphèse, où de nos jours encore se situe la maison de Marie, hein, que nos frères grecs vénèrent et que nous pouvons aller vénérer nous-mêmes. Au VIe siècle, l'historien Grégoire, évêque de Tours, raconte, dans plusieurs de ses ouvrages, avoir visité à Éphèse une grotte où reposait Marie-Madeleine. Sa tombe y a d'ailleurs été vénérée jusqu'au IXe siècle, alors que l'empereur de Byzance a fait transporter les reliques à Constantinople, qui était au cœur de l'Église d'Orient, hein, avant, malheureusement, cette séparation de notre Église de la leur. Hein. Nous étions unis dans ce temps-là. Or, que si nous pouvions redevenir unis, que ce serait merveilleux, merveilleux, orthodoxe et catholique. Il y a déjà des traits de cette réunion grâce aux uniates qui sont dans une position bien difficile. Les uniates, ce sont des gens qui sont catholiques, mais qui sont de tradition orthodoxe. Ils célèbrent la messe comme les orthodoxes. La grotte en question, bien, passait là-bas, d'après les homélies syriaques du 5e siècle, pour avoir été le refuge de 7 jeunes martyrs des premiers siècles. On les appelle les 7 dormants, vous avez peut-être déjà vu ça, dont les corps reposaient ainsi sous la protection de la tombe de Marie-Madeleine. Et le culte s'est répandu d'ailleurs en France par Grégoire de Tours à son retour. Et je mentionne ça parce qu'il y a des musulmans qui m'écoutent et que le Coran en fait mention dans la sourate 18. Et à la suite de Grégoire de Tours, d'autres personnages connus au 8e et 9e siècle ont fait le pèlerinage d'Éphèse. Ils en ont rapporté des reliques de Madeleine, notamment à Verdun en France, à Echternach dans la Sarre, en Allemagne, près du Luxembourg, là, mais surtout à Vézelay. Et c'est comme ça qu'à Vézelay, nous avons une grande vénération pour Marie-Madeleine. Est-ce qu'on peut imaginer Marie-Madeleine dans sa première entrevue avec le Christ? Elle était sans doute à ce moment-là richement vêtue. Elle était toute parfumée, comme vous savez, certaines femmes répandent des parfums énormes. Et ne voyant que les apparences, eh bien, vous vous souvenez, Simon le pharisien la considérait avec mépris. Il identifiait son péché à Marie-Madeleine. Mais Jésus, lui, il voit au-delà des apparences. Il sait bien que son parfum recouvre une plaie. Oui, une plaie secrète. Il devine sa détresse, la détresse des femmes de vie, si on peut dire. Il devine aussi l'attente que cette femme a d'un amour vrai. C'est pour ça qu'elle se donne aux hommes, mais elle cherche le vrai, puis elle ne sait pas comment. Dans son humilité, elle a reçu l'abondance du pardon, parce qu'elle a beaucoup aimé, dit Jésus. Et dans ce pardon reçu, elle a accueilli quoi? Cette paix qui lui a été offerte. Et cette pauvre Madeleine a été attentive au vrai désir du Seigneur Jésus. Elle a su trouver le geste. Elle a trouvé l'onction qui atteste à la fois qu'il est vraiment le Messie et qu'il est rejoint dans son angoisse humaine. Et ce geste est tellement ajusté que le Christ veut que dans le monde entier, on redise à sa mémoire, c'est ce qu'il dit, ce qu'elle vient de faire. Ainsi, dans Saint Marc, au chapitre 14, verset 9, il dit que ce geste, on va s'en souvenir constamment. Et au pied de la croix du Christ, bien Marie-Madeleine était présente aux côtés de Marie, sa mère, je vous l'ai dit. Et la proximité qu'elle a dû avoir avec la Sainte Vierge, là, la Mère de Dieu, sur les routes de Palestine ou près d'elle, quand un glaive lui a transpercé le cœur, ça permet d'imaginer Marie-Madeleine qui se confie à la Sainte Vierge et se laisse enseigner par elle. Et cela en présence de Saint Jean, le disciple bien-aimé, à qui Jésus, à l'heure de passer de ce monde à son Père, confie sa mère, hein, du haut de la croix. Dans le jardin de la résurrection, vous vous souvenez, la vie a jailli, hein, et Marie-Madeleine a été la première à en être le témoin. Et avant même de la nommer par son nom, Marie, le Seigneur s'est adressé à elle en l'appelant femme. Ce nom, je n'ai pas assez insisté tout à l'heure, il l'avait prononcé en s'adressant à sa mère le jour des noces de Cana, et ce rapprochement entre la Mère de Dieu et Marie-Madeleine, ça vient du Christ lui-même, c'est à recevoir comme un trésor. Et si la présence de Marie-Madeleine est attestée par les plus anciens témoignages à Éphèse, c'est qu'elle y a vécu dans tout près de la Mère de Dieu et de Saint Jean, dont la tradition nous dit qu'ils vivaient ensemble. Alors, Éphèse, la Sainte-Baume, Vézelay, étant de lieux ont gardé vivante la mémoire de Sainte Marie-Madeleine, que l'Église ne cesse aujourd'hui encore de proposer en modèle à nous tous, hommes et femmes. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons besoin d'imiter Marie-Madeleine et de plonger notre regard dans celui de Jésus et de nous convertir. Une fois pour toutes et pour toujours jusqu'à la mort. Elle nous rejoint tous dans la reconnaissance de nos fragilités, Marie-Madeleine. Elle nous rejoint dans nos larmes, dans nos repentirs. Elle nous invite à poser des gestes de véritable compassion. Marie-Madeleine a expérimenté en elle-même ce que j'appellerais le jaillissement de vie et d'amour qui a suivi sa conversion. Et elle a pu répondre à l'invitation du Christ Jésus au matin de Pâques. « Va vers tes frères. » C'est très important. « Va vers tes frères et tes sœurs. » Et elle nous entraîne, elle, sur ce chemin de vie et de lumière. Elle entend cette parole de la bouche de Jésus. « Ne vous effrayez pas. Hein? N'ayez pas peur. » C'est le message de Jésus, mais c'est le message tout d'abord de l'ange, hein? Aux femmes le matin de Pâques. C'est le message de Jean-Paul II, les premières paroles qu'il a prononcées quand il a été élu pape, « N'ayez pas peur. » Le message de l'ange. La vie de Marie-Madeleine nous invite à une confiance absolue, elle aussi. « N'ayez pas peur. » Elle aurait pu avoir peur ou d'être jugée par Dieu sur son passé, parce que les jugements des hommes envers elle n'étaient pas tendres. Leur regard était plein de mépris. Alors, les purs, les bien-pensants sont comme ça. Hein? Et qui n'est pas même moi, porter des jugements de cet ordre terrible, très contraire à notre foi chrétienne. Et pourtant, après s'être trompée de chemin, comme tant d'autres le font, elle n'a pas eu peur, elle, de venir au pied de Jésus avec le poids de son passé, puis se livrer totalement à la miséricorde du Christ qui l'a recréée totalement. Elle a accepté de l'entendre prononcer sur elle des paroles de pardon, réparer ce qui semblait irréparable. Et sauver ce qui était perdu, comme dit Jésus. Elle est venue lui laver les pieds. Et c'est elle qui a été lavée tout entière dans le torrent de miséricorde qui est sorti du cœur de Jésus. Aujourd'hui encore, l'Église, nous ne l'oublions pas, on oublie la confession, le sacrement de pénitence. Eh bien, l'Église, par le ministère du prêtre, vient accomplir l'œuvre du Christ. L'Église vient nous dire et redire sans fin à ceux qui demandent son pardon, « Tes péchés sont pardonnés. » Allons donc nous confesser. Croyons donc que le prêtre qui est là C'est le Christ lui-même qui pardonne comme à Marie-Madeleine et qui nous dit « va en paix ». Il suffit de quelques mots de repentance ou d'un geste qui la signifie pour que toute une vie soit complètement bouleversée. Oh, ça prend 5 minutes. Qu'est-ce qu'on a à ne pas y aller? La formule d'absolution prononcée par le prêtre au nom du Christ, « je vous pardonne tous vos péchés », est-ce que ça signifie pas qu'il y a bien un avant et un après et que toute la vie est remise dans la lumière de Dieu à qui appartient la puissance de créer, puis aussi celle de recréer à la suite de Marie-Madeleine? L'Église, aujourd'hui, inlassablement, propose ce pardon du Christ. Il est bon d'y être invité par ce message de l'ange, annonçant aux femmes venues au tombeau que le Christ est ressuscité, avec ces mots, « Ne vous effrayez pas, n'ayez donc pas peur, allez-y. » Alors peut éclater la joie de la résurrection. Quel événement le plus bouleversant du monde, de toute l'histoire de l'humanité? C'est pour la vie du monde que le Christ est ressuscité. La mort est vaincue. Les puissances de mort qui nous habitent sont détruites par le Christ ressuscité. Et nous sommes entraînés dans ce courant de vie. Entrons-y donc. Dans la joie d'avoir été saisis par la puissance de vérité, de lumière et de paix du Christ vivant aujourd'hui, n'est pas un don à garder jalousement sans le partager. Bien non, ce don invite et provoque au partage, à l'annonce. L'ange du matin de Pâques, il envoie les femmes annoncer la joie. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Allez dire, ce n'est pas avoir peur d'aller au-devant, c'est imiter le Christ qui précède. Marie-Madeleine est allée dire cette joie au-delà de toute joie à ceux qui avaient été ses compagnons et qui étaient dans le deuil et les larmes. Et ceux-là ne l'ont pas cru, hein? Marie-Madeleine, c'est l'apôtre des apôtres. Aviez-vous déjà pensé à ça? Marie-Madeleine les a précédés sur le chemin de l'amour et de la foi. Et pour entrer dans la vision de la foi, au-delà des apparences, au-delà du désespoir, il leur a fallu du temps. Et Jésus lui-même, se manifestant aux 11, leur reprocha leur incrédulité, c'est dans Saint Marc, et leur obstination à ne pas ajouter foi à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et jusqu'à ce qu'enfin chacun à son heure se laisse revêtir de paix et de joie et devienne à son tour témoin de l'amour, témoin de l'amour. Saint Pierre nous invite à regarder cette annonce comme une lampe, il le dit dans sa deuxième épître, une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans nos cœurs.